BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Avec Franck Morel qui est avec nous par téléphone. Bonsoir Franck, président de Zone Bourse. Dans un instant, c'est Thibaut François également qui nous accompagnera, cofondateur et associé de Fastea Capital. Merci donc de nous accompagner en ce 8 mai, Franck Morel, avec un CAC 40 qui est quasiment sur des records historiques à 8140 points, avec pas mal de sociétés qui ont dévoilé leurs résultats. Dans un instant, on parlera de Alstom, AB InBev, BMW ou encore Ruby. Mais revenons quand même sur les résultats des 7 magnifiques, à commencer notamment par Apple, Franck, qui a quand même annoncé un programme de rachat d'actions de plus de 110 milliards de dollars, c'était jeudi.
Oui, effectivement, Apple qui a très bien publié, qui annonce des rachats d'actions, donc ça, le marché aime, ça a été immédiatement apprécié par le marché, puisque la société est revenue proche de ses plus historiques. Alors, faut bien admettre que depuis bientôt un an, le Apple fait du surplace. Ça correspond aussi un petit peu à l'évolution de son chiffre d'affaires. C'était une société de croissance pendant de nombreuses années, mais on arrive un peu sur une phase de maturité avec des segments comme le segment des iPads qui est en repli, le segment de la vente des iPhones qui est très important, qui est en repli, les services qui sont en très forte progression. Mais au final, vous avez un chiffre d'affaires qui stagne autour des 400 milliards de dollars et une rentabilité très 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 importante. La société fait partie des plus profitables du marché avec 27% de résultats nets. Donc il y a pas de souci, mais on cherche des relais de croissance et pour le moment l'action fait du surplace tout comme son chiffre d'affaires en se maintenant proche de ses records historiques. Donc une des clés, ce sera la relance des ventes d'iPad qui représente à peu près 15% des revenus et aujourd'hui la société présente son nouvel iPad Pro, il est mieux, il est nouveau, il fait plus de choses, donc à voir si effectivement les ventes suivent. En tout cas, pour le moment, Apple, on n'a pas grand-chose à perdre, pas grand-chose à gagner. On est en phase de consolidation en attendant un relais de croissance qui pourrait venir par de l'innovation, on l'espère, et surtout suivre de près les ventes d'iPhone en Chine, où ce serait mieux que la société garde ses parts de marché alors qu'elle est attaquée un peu de toutes parts, notamment par les nouveaux téléphones Xiaomi.
Et voilà donc pour ce titre Apple qui perd 0,2% aujourd'hui à 182 dollars et qui perd désormais un peu plus de 5% depuis le début de l'année à contre-tendance aux États-Unis. Tiens, puisqu'on parle des valeurs américaines, continuons Franck Morel avec notamment Tesla. Alors là, décidément, c'est toujours un feuilleton en bourse Tesla. On en parlait encore hier avec des ventes qui baissaient en Chine, avec des résultats la semaine dernière où son patron Elon Musk avait essayé de noyer le poisson en annonçant un nouveau modèle, une citadine. C'est compliqué à suivre quand même en termes de news flow Tesla.
Oui, c'est même tellement compliqué à suivre qu'il faut être extrêmement prudent. À un autre sens, on est plutôt vendeur sur le titre. On a été acheteur pendant plusieurs mois, ça s'est très bien passé, on a pris nos bénéfices. Et là, on pense qu'en fait, la stratégie dans laquelle s'est engagé Tesla, qui est d'essayer d'asphyxier ses concurrents en les attaquant par les prix, essentiellement les prix, sans forcément renouveler de manière importante les gammes, et c'est une stratégie qui coûte cher en termes de marge. Et donc, vous avez un chiffre d'affaires qui croît, mais des résultats qui baissent, avec une concurrence qui s'intensifie. Donc, il est aussi possible que les ventes ne suivent pas. Et auquel cas, on aurait un double effet ciseau avec des ventes en repli et des marges en repli. La société qui se paye en 560 milliards de dollars, c'est-à-dire en gros 5 à 6 fois son chiffre d'affaires et 70 fois, entre 80 et 60 fois ses profits, vous n'avez pas de marge pour des déceptions. Donc on pense qu'il y a plus à perdre qu'à gagner sur Tesla et qu'il faut être extrêmement prudent. Prudence sur Tesla.
Prudence sur Tesla avec un titre qui recule encore aujourd'hui de 1,8% à 174 dollars, moins 30% depuis le début de l'année. Une dernière valeur quand même aux États-Unis et puis ensuite on parlera des valeurs européennes. Franck Morel, ça concerne le dossier Disney qui a perdu 10% hier. Alors les parcs, ça cartonne, mais par contre la plateforme de streaming Disney Plus inquiète les investisseurs.
Alors en fait, Walt Disney, historiquement, c'est une très belle société avec une croissance relativement faible, mais une croissance toute chaque année dans des proportions de 5 à 7%, avec une rentabilité très importante. Et puis, il y a quelques années, la société a décidé de se lancer dans le streaming. Elle a saccagé, j'ai envie de dire, son compte de résultat, puisque ses marges, qui étaient historiquement relativement élevées autour des 20-25%, se sont effondrées terminer actuellement vers des 3, 4, 5%, 2%, 2,6% pour l'année dernière et on vise 4-5% cette année. Donc en gros, la rentabilité a été divisée en pourcentage, hein, a été fortement réduite et divisée par 4. Pourquoi ? Parce que la société engloutit des sommes, une énergie considérable dans la conquête des parts de marché du streaming et donc se retrouve confrontée à Netflix notamment, qui est le leader, qui est le seul d'ailleurs à gagner de l'argent. Vous avez toute une batterie d'acteurs, Disney en premier lieu, qui ont décidé de pivoter leur activité pour avoir une croissance de chiffre d'affaires beaucoup plus importante, mais là encore au détriment des marges. Et donc tout ça se concrétise par une baisse importante des cours et puis la publication d'hier a été relativement positive, puisque pour une fois, et c'est la première fois, le résultat était positif dans le streaming et donc dans ce pivotage stratégique. Néanmoins, les perspectives ont été abaissées et donc vous avez une société qui gagne 3 à 4 fois, ce qui est 3 fois moins d'argent qu'elle gagnait il y a 3-4 ans. Et donc vous avez devant vous plus de risques que de performances, puisque la société se paie entre 25 et 30 fois les résultats attendus pour cette année et l'année prochaine.
Et après avoir perdu 10% hier, Disney remonte péniblement de 0,8%. Franck Morel, vous restez avec nous. On a Thibaut François qui nous a rejoint, cofondateur et associé de Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Merci de répondre à l'appel de BFM Business. Bon, dans un instant, le CAC 40 va clôturer à 100 points de ses niveaux historiques ou presque. CAC 40 GR qui est sur des records historiques. Vous êtes à l'aise avec les niveaux de marché actuels à Paris?
On est à l'aise parce que les publications sont bonnes depuis le début d'année. Le premier trimestre a été plutôt bon d'un point de vue général. Les objectifs ont été confirmés pour l'année 2024, donc tout ça c'est plutôt de bonne augure. Et surtout, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il y a une grosse rotation sectorielle depuis quelques semaines. Le marché a été embarqué à la hausse par les valeurs de luxe depuis quelques années. Et puis là, on sent bien qu'il y a une rotation. Donc le luxe est un petit peu moins fort, donc c'est toujours en hausse depuis des années. Mais par contre, on a des secteurs qui commencent à surperformer. C'est vrai que la hausse des taux a plutôt bénéficié, notamment au secteur de l'assurance et au secteur bancaire. Et on se retrouve aujourd'hui avec un secteur bancaire et un secteur de l'assurance qui commence à tirer un petit peu le CAC 40, qui commence à surperformer le CAC 40. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc on a un relais de croissance de certaines valeurs qui est plutôt intéressant et qui nous permet d'avoir un CAC dividende réinvesti qui est au plus haut aujourd'hui. Et on est plutôt à l'aise avec ce niveau-là et on pense que ça va continuer plutôt à monter dans les prochaines semaines et dans les prochains mois.
8137 points pour le CAC 40 qui est en hausse de 0,8%. Vous avez la bourse d'Amsterdam qui est sur des plus hauts historiques. Quand à Wall Street, eh bien, c'est un peu plus mitigé avec un Nasdaq qui cède 0,2% quand le Dow Jones de son côté prend 0,1%. Franck Morel, Thibaut François, je vous propose de rester avec nous. On fait une très courte pause, ça sera le fixing à la Bourse de Paris et puis ensuite on abordera les nombreuses valeurs qui font l'actualité aujourd'hui. AB InBev qui est en forte hausse à Bruxelles après avoir publié ses résultats, c'est la maison mère de Lève. Vous avez Alstom qui gagne plus de 8% désormais après avoir publié ses résultats et son plan de refinancement. Vous avez BMW à l'inverse qui est en baisse à Francfort après la publication de ses résultats et puis Ruby également qui est en baisse après avoir fait un point d'étape sur sa stratégie avec un aspect spéculatif, on en parlait tout à l'heure, qui est très fort sur ce titre Ruby depuis l'arrivée de Vincent Bolloré. Très courte pause, on se retrouve dans un instant à la clôture. À tout de suite.
BFM Bourse, on refait la séance.
Et pour refaire cette séance, c'est Franck Morel qui est toujours avec nous en ligne par téléphone, président de Zone Bourse. Merci Franck de répondre à l'appel de BFM Business. Il y a quelques instants, on parlait des valeurs américaines qui font l'actualité en ce moment, Apple, Disney ou encore Tesla. Bon, aujourd'hui, la valeur qui fait l'actualité, bien sûr, c'est Alstom qui a décidé de publier ses résultats un 8 mai, assez original. Bon, ça leur réussit hein, puisque le titre est en forte hausse, plus 9,3% pour ce titre Alstom. C'est mérité ou pas ce plus 9%, Franck Morel?
Alors, c'est un plus 9%, sachant que le cours a été divisé par près de 3 en l'espace de 3 ans. Donc, plus 9%, c'est effectivement relativement, on va dire, rassurant. Et ça veut dire que les informations sont a priori positives et bien interprétées par le marché. Ces informations étant qu'au niveau financier, au niveau opérationnel, ça reste toujours très compliqué chez Alstom, hein, qui figure parmi les leaders mondiaux de tout ce qui est transport ferroviaire. Mais bien qu'en étant le leader mondial, eh bien vous avez des difficultés d'exécution qui sont notamment liées au fait que la société a racheté Bombardier en 2021. Et depuis qu'elle a racheté le Canadien Bombardier, eh bien, vous avez des problèmes d'exécution et de marge qui sont réguliers et quasi permanents. La société a enchaîné les profit warnings et les publications en dessous des attentes. D'ailleurs, on aurait pu craindre qu'avec cette publication un jour férié, ce soit de mauvais augure. Manifestement, donc, c'est pas le cas. La publication en elle-même est conforme, on va dire. Ce qui est surtout important, c'est le plan de désendettement, puisque la société cherche à se désendetter. Hein. Elle a à peu près 3 milliards de dettes, sachant que ça fait 3 exercices qu'elle perd de l'argent en fin d'année. Donc, il y avait une urgence à régler les problèmes de dettes. Qui peuvent se faire par le biais d'une augmentation de capital. Donc, c'est ces informations qu'on a eues aujourd'hui. Donc, la société souhaite se désendetter par le biais d'une augmentation de capital d'un milliard d'euros, par le biais d'un emprunt obligataire de 750 millions d'euros. Et puis, elle souhaite toujours faire des cessions d'actifs pour environ 700 millions d'euros. Et donc, ça permettrait à la société de réduire considérablement son endettement et donc d'éliminer les risques de dilution supplémentaire. Et donc, voilà, c'est ces informations qui sont bien interprétées par le marché. Après, la société a tellement déçu depuis tellement de publications trimestrielles ou annuelles où on a des taux de surprise qui sont systématiquement négatifs et complètement à côté des attentes des analystes, qu'on attendra clairement d'avoir 2 ou 3 bons trimestres avant de se réintéresser au dossier qui, quand bien même la thématique est porteuse et le positionnement de la société idéal, c'est pas pour autant qu'on arrive à exécuter comme il faut et donc on attendra d'être rassuré sur ce point avant de s'intéresser au dossier.
Et donc, malgré la hausse de 9% à 17,11 €, vous n'accompagnez pas le mouvement. Hein. D'ailleurs, on a posé la question à nos auditeurs téléspectateurs sur Twitter. Faudra-t-il participer à cette augmentation de capital? Et la réponse était non à quasiment 60% pour ce titre Alstom. Et pas mal de débouclements de positions short ont également eu lieu aujourd'hui. Stéphane Sauduteil nous rejoint, trader pour compte propre. Rebonjour Stéphane.
Rebonjour.
En effet, c'est l'un des titres les plus shortés de la cote. Donc, lors de nouvelles comme ça, il ne faut pas oublier qu'il y a un côté très spéculatif.
Oui, ça reste un dossier excessivement spéculatif. C'est vrai que on avait mangé vraiment notre pain noir entre juillet 2023 et décembre 2023. On avait perdu 60%. Ça va quand même mieux depuis le débordement de 12,50. On est à quasiment à 17 euros. Je pense qu'on peut reprendre la moitié du terrain perdu, c'est-à-dire remonter sur les 20 euros. Après, comme le disait Franck, je pense qu'il faudra attendre quelques trimestres hein, pour voir si les résultats se confirment. Mais bon, avec un petit peu d'espoir, je pense qu'on peut acheter un surrepli, le titre, hein, entre 15,50 et 16 pour viser peut-être 20 euros, pas beaucoup plus pour l'instant, en attendant de voir un petit peu si la situation vraiment confirme son amélioration.
Et donc voilà pour ce dossier Alstom qui, on le rappelle, est sorti du CAC 40 l'année dernière. Franck Morel, à l'inverse, ça se passe beaucoup mieux pour AB InBev, c'est la maison mère notamment de l'EF, titre qui est coté à Bruxelles, qui a fait un point d'étape sur ses résultats et visiblement ils ont réussi à rassurer les investisseurs.
Oui, effectivement. Alors, AB InBev, ce n'est autre que le premier brasseur mondial. C'est le leader mondial de la bière. Hein. Donc, vous avez parlé de Leffe, mais ils ont aussi Stella Artois ou Budweiser. Donc, ils ont publié leur chiffre d'affaires pour le premier trimestre, qui est ressorti à 14,5 milliards d'euros. Le marché attendait 14,3, donc on va considérer que c'est conforme. La bonne surprise est venue au niveau du résultat net, puisque la société a publié un résultat net de 1,09 milliard, quand le marché attendait 0,94. Donc on est 15% au-dessus des attentes en termes de rentabilité. Donc la surprise vient des marges, qui sont nettement meilleures qu'attendues, ce qui explique la hausse de ce jour de près de 4%. Donc en fait, on observe une baisse des volumes. Il faut savoir que les ventes d'alcool sont en plein chamboulement depuis, on va dire, 5 à 10 ans, avec des tendances historiques qui s'inversent. Par exemple, vous avez des ventes de vin qui sont en forte baisse, vous avez les ventes de bière qui sont en baisse, moindre, mais en baisse tout de même. Et puis un marché des spiritueux qui, lui, est en très forte croissance, mais qui représente encore qu'une petite partie, est tirée plus particulièrement par la tequila. Donc, quand vous êtes à AB InBev et que vous vendez de la bière, vous subissez, et que vous êtes le leader mondial, vous subissez cette baisse des volumes qui a été encore confirmée aujourd'hui dans cette publication. Donc, en gros, on vend moins de volume de bière, on les vend avec plus de marge. Donc, vous avez un chiffre d'affaires qui est instable grâce aussi à des prix qui ont été augmentés. À la fin, vous avez gagné plus d'argent qu'escompté et vous êtes rentable, mais vous avez des perspectives qui sont pas non plus très très importantes. Alors on est sur des, c'est l'avantage d'ailleurs de cette industrie, c'est que vous êtes sur une industrie qui est peu cyclique avec une visibilité très forte. Il faut que la société se batte contre les tendances de long terme, ce qui pourrait se faire notamment par le biais d'une poursuite d'une stratégie de croissance externe. En tout cas, la société se paye aujourd'hui 15 fois les résultats attendus. Donc on peut s'intéresser au titre pour son caractère défensif et surtout défensif.
Et ce titre qui prend plus de 4% ce soir à Bruxelles, valeur importante hein, en Europe, hein, c'est plus de 100 milliards de capitalisation boursière AB InBev. Franck Morel, autre valeur qui a fait l'actualité aujourd'hui, c'est BMW qui confirme la tendance. On rentre dans le dur pour les constructeurs automobiles en Europe et surtout pour les constructeurs allemands qui, décidément, en l'espace d'une semaine, ont déçu jour après jour en termes de publication.
Effectivement, la publication a été légèrement inférieure en termes de marge. Donc, en termes de chiffre d'affaires, on est conforme. En termes de marge, on est en dessous des attentes. Le marché attendait, en gros, 9% de marge opérationnelle et elle est sortie 9,2% et elle est sortie à 8,8%. Donc, on est légèrement en dessous de ce qu'attendait le marché, ce qui explique le repli d'aujourd'hui. En termes de chiffre d'affaires, on est conforme avec ce qui était attendu par le marché. Et donc, cette surprise légèrement négative du côté des marges vient du fait qu'il y a eu des coûts de production qui étaient plus élevés qu'attendus, notamment liés à des problématiques liées à l'inflation. Puis, vous avez aussi une part des ventes qui sont de plus en plus électriques et où les marges sont moins importantes. Ce poids des ventes électriques et l'augmentation de la proportion des ventes électriques sur le chiffre d'affaires a un impact légèrement négatif sur les marges. Il faut prendre des parts de marché, il faut aller vite, ça coûte plus cher que prévu. Mais voilà, donc la société, c'est le leader, hein. L'unique pure player de la vente de voitures haut de gamme, hein, parce que si vous voulez investir dans la voiture haut de gamme, vous avez pas 36 véhicules, vous allez avoir Ferrari ou BMW, sinon vous allez vous retrouver avec une batterie de marque. Et donc là, vous êtes sur un positionnement pure player haut de gamme voiture, et ça se paye 6 fois les résultats, vous avez 5% de rendement. On est définitivement dans le secteur auto qui est des valorisations à la casse. Néanmoins, les perspectives sont stables. En l'état, les analystes attendent pour les trois prochaines années une stabilité quasi du chiffre d'affaires et du résultat. Donc là encore, pas grand-chose à gagner ou à perdre, si ce n'est les 5% de rendement chaque année, sachant que la société, pour le coup, est extrêmement saine, puisque là, elle a une situation de cash qui est largement positive. Mais on préfère Renault pour son côté recovery, qui se paye la moitié à peu près de ce que se paye BMW pour des ratios similaires.
Donc Renault, hein, plutôt à choisir dans le secteur automobile, et ce titre BMW qui perd quasiment 4% ce soir à Francfort. Stéphane Sauduteil, parmi les valeurs graphiquement qui ont retenu votre attention, AXA, Schneider Electric, s'il faut en choisir une des deux, laquelle mérite un coup d'œil ce soir?
Pour la volatilité, Schneider, hein, bien entendu, puisqu'on a des parcours un peu similaires dans l'évolution graphique, mais en pourcentage, Schneider est beaucoup plus puissant, en fait. Hein. On a gagné 68% depuis le 23 octobre, 28% pour AXA depuis fin octobre. Donc, on a une force relative bien supérieure sur Schneider. Je pense qu'on a débordé de nouveau une petite résistance autour des 219 €, qui était l'ancien point haut. On est à 226-27. Je pense qu'il y a encore un potentiel sur 234 sur Schneider, voire même peut-être un petit peu plus haut. Donc je continuerai à faire confiance plutôt à Schneider et un petit peu moins à AXA.
Schneider Electric qui est sur des records historiques ce soir, qui gagne un peu plus de 2%. C'est l'une des plus fortes hausses du marché parisien à 226,40 € ce soir au fixing. Dernier mot avant de conclure cette émission, Franck Morel, président de Zone Bourse, sur Ruby ou peut-être sur une valeur, une pépite que vous avez envie de mettre en avant à l'antenne ce soir?
Alors je vais opter pour la pépite, je pense que ça intéressera plus de monde. Donc je vais me mouiller sur Lyft. Lyft, c'est le concurrent de Uber aux États-Unis. C'est le challenger, hein, puisque Uber est l'archi-leader et est positionné sur tout ce qui est livraison, sur les taxis, etc. Alors que Lyft est un pur player de tout ce qui est mobilité et donc taxi. Et bien Lyft se paye aujourd'hui 2 à 3 fois moins bien qu'un Uber en termes de multiple de résultats ou de valeur d'entreprise. Elle a publié aujourd'hui une perte, mais qui est nettement moins importante que prévu. Et en fait, c'est une situation intéressante, puisque la société est une société de très forte croissance. Elle faisait 2,5 milliards de chiffre d'affaires en 2019 et on est quasiment à 5,3 en 2024. Donc, elle a plus de doubler en 3 ans, en 4 ans. Et donc, la rentabilité historiquement est négative. La société perd de l'argent chaque année, sauf que ce niveau de perte est en train de s'amoindrir à vue d'œil et on flirte désormais avec l'équilibre. Équilibre qui devrait être atteint cet exercice, voire l'exercice prochain. Et dès que ce sera le cas, elle aura des multiples de valorisation en termes de basés sur sa rentabilité qui sont aujourd'hui pas du tout ceux qu'on est prêt à payer pour ce genre de situation. Donc, à mon sens, c'est le moment idéal pour investir dans ce genre de société qui, par ailleurs, se paye, comme je le disais, deux fois moins que le leader mondial Uber. Donc Lyft aux États-Unis, LYFT.
Voilà, valeur que vous pouvez retrouver dans votre portefeuille, hein, c'est bien ça, Franck, hein, portefeuille Zone Bourse.
Effectivement, nous sommes investis dans la société dans le cadre de notre portefeuille US.
Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accompagnés ce soir, président de Zone Bourse. Merci également à Stéphane Sauduteil qui nous accompagnait, trader pour Compte Propre. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris, positive avec un CAC 40 qui clôture ce soir sa 4e séance consécutive dans le vert grâce à un gain de 0,7% au-delà des 8100 points, 8131 points. Du côté de la Bourse d'Amsterdam, record historique, hein, au-delà des 900 points, record historique également pour le CAC 40 avec les dividendes, quand la tendance à Wall Street est beaucoup plus hésitante avec une légère remontée de l'obligataire. Vous avez le Dow Jones qui grappille 0,2%, le S&P qui est stable quand le Nasdaq de son côté cède 0,2%. Et donc la valeur qui a fait l'actualité aujourd'hui à la Bourse de Paris, c'est bien sûr Alstom. Après la publication de ses résultats et donc l'annonce d'un plan de refinancement, la valeur gagne quasiment 9% ce soir à la clôture, au-delà des 17 €. Voilà pour BFM Bourse pour cette émission du mercredi 8 mai. Merci à tous de nous avoir accompagnés. Merci à nos intervenants de nous avoir consacré quelques minutes en ce jour férié et en ce pont du mois de mai. Dans un instant, vous retrouvez bien sûr Good Evening Business avec Guillaume Paul et le journal de 18h qui reviendra bien sûr en long, en large et en travers sur Alstom, qui est donc la vedette ce soir du SBF 120. Très bonne soirée à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.